Hey, quel plaisir d'apporter la parole en ce dimanche spécial de la fête des mères. Et vraiment, c'est exceptionnel de pouvoir vivre ce dimanche ensemble. Et je veux vraiment prendre le temps d'honorer les mères et les femmes ce matin. Beaucoup de ce que vous faites est dans le secret et pas vu sur le stage, mais tellement apprécié, tellement reconnu par moi et par les gens qui vous entourent, je l'espère. Aujourd'hui, laissez-vous gâter par les gens qui vous entourent. Messieurs, une petite attention peut-être pour votre femme aujourd'hui, pour votre maman. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'inspirer d'une femme dans la Bible qui a un trésor à nous communiquer, qui a vraiment un enseignement puissant à nous communiquer à chacun d'entre nous. Et cette femme-là s'appelle Anne, la maman de Samuel, qui est une maman, bien sûr. Et le titre de mon message aujourd'hui, c'est « La prière qui change tout ». La prière qui change tout. Et si vous avez une Bible, c'est dans 1 Samuel, le premier chapitre. Et je suis convaincu ce matin que la leçon que nous allons apprendre dans le livre de 1 Samuel par cette femme, par Anne, peut avoir un impact formidable dans la vie de chaque personne dans ce lieu. C'est une leçon qui est pour quelqu'un qui est ici depuis, qui est chrétien depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans ou plus, mais c'est aussi une leçon pour quelqu'un qui découvre Jésus, quelqu'un qui est tout nouveau dans la foi, qui est peut-être ici pour la première fois. Je vous invite à ouvrir votre cœur, il y a quelque chose de spécial ce matin à saisir pour notre vie. Est-ce que votre cœur est ouvert ce matin? Je peux-tu voir vos deux mains pour me dire « mon cœur est ouvert, je suis prêt, ah ouais, shoot le message, c'est correct, on est prêt. » OK. Message. Ouais, les splish, des fois, là. 1 Samuel 1. Et ça commence avec une situation qui est difficile. Il y avait un homme de Ramathaïm, Tsophim, de la région montagneuse d'Éphraïm, du nom d'Elkana. Il était le fils de Jéroam, fils d'Eliou, et petit-fils de Tohu, et arrière-petit-fils de Tsuf, qui était éphraïmite. Bon, pause. Il y a peut-être des futures mamans dans ce lieu qui cherchent un nom pour un futur bébé. Et voilà, plein d'idées. OK, verset 1. J'aime surtout le tuf. OK, verset 2. Focus, David. Il avait deux femmes. Cet homme-là avait deux femmes, ça part mal. Hein? Deux femmes. L'une s'appelait Anne, l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, tandis qu'Anne n'en avait pas. Chaque année, cet homme montait de sa ville jusqu'à Silo pour adorer l'Éternel, le maître de l'univers, et lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phinéas, qui étaient prêtres de l'Éternel. J'arrête tout de suite un instant. Une autre culture, on remonte à il y a plusieurs centaines d'années, même milliers d'années. Et cet homme-là avait deux femmes. Et déjà, on voit le potentiel conflictuel quand il y a deux femmes dans la main. OK? Et ces deux femmes-là étaient en rivalité. Parce qu'une avait des enfants, plusieurs enfants, comme on va le voir dans les prochains chapitres. Et l'autre femme, Anne, n'avait pas d'enfants et aspirait à avoir des enfants. Verset 4. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à sa femme Pénina et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle, mais à Anne, il donnait une portion double, car il l'aimait, même si l'Éternel l'avait rendue stérile. J'arrête ici un instant. Ils s'en vont en famille, une grande famille, pour adorer le Seigneur. Ils allaient offrir des sacrifices. Et je fais une parenthèse sur les sacrifices. On offrait un animal sur un autel, un genre de gros barbecue, en fait. Et on allait là-bas et on égorgeait l'animal et on brûlait l'animal. Et ce que ça représentait, c'était que nos fautes, nos péchés, c'était l'animal, l'agneau ou un autre animal qui payait le prix pour nos péchés, pour nos fautes, qui faisait qu'on devenait pur devant Dieu. Et tout ça, c'était une image, bien sûr, de Jésus-Christ. Une image de ce que Jésus allait faire pour nous, de Jésus qui allait être le sacrifice, qui allait porter nos péchés à notre place, à la croix, afin que nous puissions être libres. Donc, ils s'en vont offrir des sacrifices, ils s'en vont louer Dieu, et par la suite, l'animal qu'on faisait cuire, bon, On le mangeait, bien sûr. Les gens qui étaient là, c'était pas un trip de faire cuire un animal, on le mangeait, OK? Et là, l'homme va donner la meilleure portion, une portion double à Anne, celle qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Et vous savez, des fois, dans un couple, il y a des partages d'assiettes, des fois. Hein? Avez-vous déjà vécu ça sur vos restos? Puis là, des fois, madame pige dans l'assiette de monsieur. Et là, monsieur, des fois, il est content ou pas. Hein? Là, mon assiette, etc. Et vous savez, une des choses qu'on aime bien dans le poulet, c'est le filet mignon du poulet. Savez-vous que le poulet avait un filet mignon? Ah! Tu sais, en arrière de la cuisse, là, en dessous, là, il y a un petit spot de poulet qui est vraiment bon. Okay? Puis ça, ce spot-là, quand tu le partages avec ta conjointe ou ton conjoint, là, c'est un vrai signe d'amour. Si, là, tout le monde va aller s'acheter un poulet après, puis... Il est où le filet mignon? Et là, cet homme-là donne la meilleure portion à Anne. Et non à sa femme, à l'autre femme qui avait plusieurs enfants. On continue au verset 6. Sa rivale la provoquait pour la pousser à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Et toutes les années, il en allait de même. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la provoquait de la même manière. Alors, elle pleurait et ne mangeait pas. Son mari Elkana lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? » La réponse est non. Mais on voit une scène assez spéciale. Il y a cette rivalité. Il y a une des deux femmes qui aspire à avoir l'amour de son mari que l'autre a, et l'autre aspire à avoir des enfants. Et les deux sont dans une situation différente, et les deux aspirent à avoir ce que l'autre a. Est-ce que ça vous rappelle quelqu'un, ça, des fois? Des fois, on aspire à avoir ce que l'autre personne a à côté de nous. Hein? Comment ça vous... Vous me regardez avec un regard, ben pas moi, ça m'arrive pas. Des fois, on aspire à avoir ce que l'autre a. Ah, mais j'aimerais donc ça, avoir ce que... Être comme lui, être comme elle, ressembler à lui, ressembler à elle, avoir une aussi belle voix que... Ou avoir un corps différent. J'aimerais vous dire ce matin, vous êtes tous des créatures merveilleuses. Arrêtons de toujours vouloir ce que les autres ont. Regardons ce que Dieu nous a donné et soyons heureux avec ce que Dieu nous a donné. Messieurs, dites à votre conjointe, tu es une créature merveilleuse. Oh, ça chuchote doucement, là. Créature merveilleuse. Là, célibataire, c'est pas le temps de croiser quelqu'un dans la place. Là. Tu es une créature merveilleuse. C'est pas le temps. T'es à l'église. Wow! Et on voit qu'il y avait cette rivalité entre les deux. Une voulait ce que l'autre avait. La Bible nous dit aussi que Pénina était méchante envers Anne, qu'elle l'agaçait, la tannait, qu'elle était toujours en train de l'irriter, et ça durait pendant des années. Situation difficile qui durait pendant des années et des années. Peut-être que tu es ici ce matin et que tu vis toi aussi une situation difficile qui dure depuis des années, qui tanne, qui pèse sur ton cœur. Je veux juste te dire ce matin que Anne te comprend, mais Dieu te comprend. Dieu te comprend, Dieu te voit, puis Dieu veut répondre à ta prière. Dieu veut agir dans ta vie. Dieu veut intervenir dans ta vie. La Bible nous dit qu'Anne pleurait, puis qu'elle ne mangeait pas. Elle était profondément attristée et affectée, et même découragée et épuisée émotionnellement par la situation qu'elle vivait. Et en ce moment, j'ai rarement vu autant de gens, malgré le beau temps qui revient, autant de gens dans mon entourage qui vivent un épuisement, qui vivent un découragement, suite à la pandémie, bien sûr, suite à toutes sortes d'événements peut-être qui ont pris place dans nos vies ou même dans le monde. Et il y a comme cette lourdeur peut-être sur certains d'entre vous aujourd'hui et qui vous affecte, qui vous fait du tort, qui vous fait du mal. Et j'aimerais aujourd'hui t'encourager qu'il y a de l'espoir pour toi. On a chanté l'espoir tantôt. Il y a de l'espoir pour ton cœur, il y a de l'espoir pour ce que tu vis aujourd'hui. Et là, on voit le mari qui a fait de son mieux. Hein? Souvent, des fois, les maris ont fait de notre mieux, mais ça ne marche pas tout le temps. Puis, il essaie de l'encourager. Hein? Est-ce que moi, je ne vaux pas plus que 10 enfants? Puis, il n'y a pas de réponse. Hein? C'est comme, non, je veux des enfants. Hein, il y a cette tristesse que beaucoup de femmes aussi ressentent, cette tristesse de qui aimeraient avoir des enfants puis qui ne peuvent pas avoir d'enfants pour différentes raisons. Puis des fois, c'est une douleur qui reste avec certaines d'entre vous. Ce matin, Dieu t'aime, Dieu te comprend, Dieu voit la situation dans laquelle tu es. Comment on réagit? Quelles sont les solutions dans nos vies quand ça ne va pas? C'est quoi les solutions? Comment réagissons-nous face aux obstacles, aux épreuves, aux soucis, aux difficultés, aux problèmes, aux douleurs, aux frustrations, aux déceptions, aux trahisons dans la vie? Comment est-ce qu'on réagit? Humainement, on a plein de façons de réagir. Humainement, chacun d'entre nous, on réagit des fois de façon terrible. Des fois, on essaie de faire des trucs pour essayer de s'aider. Mais là, j'ai fait une liste de choses, de réactions qu'on peut avoir devant l'adversité. Certains se plongent dans l'alcool. Certains vont manger plus. Là, j'ai marqué « végéter devant la télé ». Certains vont végéter devant la télé. C'est comme ça que tu gères tes problèmes. Tu fais juste, tu zappes, puis tu écoutes des affaires, puis tu essaies d'oublier ce qui se passe vraiment dans ta vie. D'autres vont se tourner vers la drogue ou la pornographie, ou carrément de juste surfer tout le temps sur les médias sociaux. D'autres vont positivement essayer de faire de l'exercice, de bouger leur corps. D'autres vont voir un psy, un thérapeute ou autre. D'autres vont aller marcher en forêt. Ça fait du bien de marcher en forêt. C'est prouvé scientifiquement d'ailleurs. D'autres vont prendre des produits naturels. Je ne vais rien dire contre les produits naturels aujourd'hui. D'autres vont adopter la pensée positive, ou des superstitions, ou des loisirs, des sports, hein, des passions, des loisirs, des sports. D'autres vont dire, ben, j'ai besoin de plus de vacances, de médicaments. D'autres, ça va sortir en colère, en critique, en paroles blessantes. D'autres, vous allez vous perdre au travail en faisant de nombreuses heures. Et on aurait pu continuer la liste parce qu'on est des êtres humains. On est tous des êtres humains. Puis là-dedans, j'ai mélangé des affaires positives avec des affaires négatives. Vous avez remarqué, j'espère, qu'il y avait un peu des deux. Si pour toi tout est positif, viens me voir après, on va discuter. Le point, c'est que humainement, quand ça ne va pas, on a tendance à essayer des affaires. Puis souvent, là, peu importe que ce soit des affaires positives ou négatives dans lesquelles on se jette, ça ne comble pas notre cœur. Il manque quelque chose encore. On fait quoi quand il manque quelque chose encore? On fait quoi quand toutes les solutions, même les bonnes, ne fonctionnent pas? Quel recours avons-nous? Quel est notre espoir? J'aimerais vous dire que Anne va répondre à cette question. Anne va nous donner un modèle puissant sur comment on fait face aux défis, aux obstacles, aux épreuves, aux soucis, aux difficultés, aux problèmes, aux douleurs, aux frustrations, aux déceptions et aux trahisons. Anne nous explique comment. Et ce matin, c'est le temps de capter le message de Anne, de capter comment un chrétien devrait traverser ses épreuves. Oui, il y a une couple d'affaires qui sont bonnes là-dedans, que tu peux faire, d'autres à éviter. Mais avant d'essayer quoi que ce soit, humainement, il y a une solution qui passe avant et c'est de s'approcher de Dieu. Cœur à cœur avec Dieu. Je ne parle pas d'une simple petite prière religieuse. Je parle d'un cœur à cœur avec Dieu. La différence, ça, c'est comme si tu parles à quelqu'un que tu ne connais pas vraiment. Ah, il fait beau aujourd'hui, oui, c'est le fun, il ne pleut pas pendant plusieurs jours, c'est formidable. Sinon, la personne fait une discussion qui est très basic. Okay? C'est correct. Mais je ne te parle pas d'une prière basic. Je te parle d'une prière qui implique tout ton être. Une prière qui implique ton âme, ton cœur, qui implique les profondeurs de ce que tu vis, de tes émotions. Et regardons ensemble le modèle d'Anne pour nous. Verset 9. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le prêtre Élie était assis sur son siège près de la porte au temple de l'Éternel. L'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et pleura abondamment. Elle fit le vœu suivant, « Éternel, maître de l'univers, si tu consens à regarder la détresse de ta servante, si tu te souviens de moi, et si tu n'oublies pas ta servante et lui donnes un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour toute la durée de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. » Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observait sa bouche. Anne parlait dans son cœur, et ne faisait que remuer les lèvres. On n'entendait pas sa voix. Élie pensait qu'elle était ivre. Il lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu ivre? Va cuver ton vin. » Verset 15. Anne répondit, « Ce n'est pas cela, mon Seigneur. Je suis une femme à l'esprit abattu. Je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais j'épanchais mon cœur devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme légère, car c'est le trop-plein de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit, « Pars en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Elle répondit, « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Cette femme s'en alla, elle se remit à manger et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin et après avoir adoré l'Éternel, ils partirent et retournèrent chez eux à Rama. Wow! Nous avons ici une leçon d'une femme qui a obtenu la réponse à sa prière. Dans les versets suivants, on voit que Dieu a répondu, que Dieu lui a donné un fils, Samuel d'ailleurs, qui est le nom du livre, et d'une façon vraiment formidable et incroyable. Pourquoi cette femme-là a-t-elle été répondue? Pourquoi sa prière est si spéciale pour nous aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette femme aujourd'hui? J'ai juste relevé quelques éléments de sa prière. Elle vient de l'Éternel, elle prie l'Éternel avec l'amertume dans l'âme. En gros, elle vient prier Jésus, son Dieu, comme elle est. Quand tu t'approches de Dieu, il faut que tu sois vrai, toi-même, avec tes émotions, avec qui tu es, avec ce que tu traverses. On ne joue pas la comédie devant Dieu. Dieu te voit tel que tu es. Donc, tu peux venir, si tu te sens amer, déçu, frustré, triste, viens comme tu es devant Dieu. Viens tel que tu es devant le Seigneur. La Bible nous dit, elle pria à l'Éternel, elle pleura abondamment. Il y a des fois où les larmes doivent couler dans la présence de Dieu. Il y a des fois où on doit répandre notre cœur devant Dieu. Certains, des fois je parle avec des gens où certains se confient, puis ça arrive que des gens pleurent, et la plupart des gens ont le réflexe de dire « je m'excuse hein? ». Comment vous faites ça des fois? On pleure, je m'excuse. C'est parce qu'on ne fait rien de mal quand on pleure. On n'a pas besoin de s'excuser de pleurer. Vous êtes là? On ne s'excuse pas, ça fait partie des émotions humaines. Puis si on ressent la tristesse, c'est correct de pleurer devant le Seigneur, de venir devant lui puis de pleurer. Elle restait longtemps en prière devant l'Éternel. La Bible nous dit qu'elle a prolongé sa prière. Pour moi, ici, il y a une des clés les plus importantes de ce texte. Parce qu'on vit dans un monde où on peut écouter 6 heures de télé en ligne, mais on a de la difficulté à prier 30 minutes. Dites « ouch ». Hein, dites pas « amen », dites « aïe, aïe, ouch oh. ». Notre capacité d'attention est de plus en plus réduite. Hein, on a la tendance à voir notre téléphone rapidement, à penser à plein de choses. Et c'est de plus en plus difficile dans la société dans laquelle on vit de s'arrêter pour la prière et de prendre le temps de prolonger les moments qu'on a avec Dieu. Ce matin, je ne sais pas comment plus appuyer, mais je veux appuyer sur ce point-là un instant. Il faut qu'en tant que croyant, qu'on trouve des façons de prendre du temps avec Jésus. Prendre le temps avec lui. Prendre des moments cœur à cœur avec lui. Et dans l'instant, je vais vous donner quelques conseils, mais un des premiers conseils que je vous donne, ça prend un moment. Combien de temps? Ben, vas-y selon où tu es rendu dans ta vie. Si tu n'as jamais fait ça, commence par un 15 minutes. Mais peut-être que ça va prendre une demi-heure. Peut-être que ça va prendre une heure avec Jésus. Où tu te déconnectes de tout pour te connecter à Dieu. Et quand tu fais ça, là, le miraculeux peut prendre place dans ta vie. Ce qui était mort et stérile dans ta vie peut reprendre vie. Il peut se passer des choses extraordinaires. Et la Bible nous dit, Anne parlait dans son cœur, elle ne faisait que remuer les lèvres, on n'entendait pas sa voix, il y pensait qu'elle était ivre. Hein? On peut imaginer cette image-là de, que le prêtre pensait qu'elle était ivre, donc elle n'était pas comme ça. Là. Et physiquement, il se passait quelque chose. Physiquement, lorsqu'on la regardait, on voyait qu'elle vivait quelque chose d'intense, d'intime, de personnel. les larmes qui coulent, etc. Elle avait l'esprit abattu. Et elle est venue devant Dieu. Elle a épanché son cœur, son âme devant l'Éternel. J'aime tellement cette phrase-là, épancher son cœur. Hein? Verser, répandre son cœur, son âme, son être, toute sa personne. Comme chrétien, comme croyant, combien ça doit faire partie de notre vie de répandre notre cœur devant Dieu. D'épancher notre cœur devant l'Éternel. Au lieu de courir à droite, à gauche, puis d'essayer plein de solutions humaines, parfois ça peut faire du bien, mais parfois, et même toujours, nous devrions commencer par épancher notre cœur devant l'Éternel. Nous confier à Dieu. Nous déconnecter de tout et nous connecter à Lui. Aller dans sa présence et répandre notre cœur devant Lui. Lui faire connaître notre besoin. Lui faire connaître notre colère, notre tristesse, notre déception, nos défis, notre deuil, répandre notre cœur devant lui. C'est ma prière pour toi ce matin. Je n'ai pas réussi mon message à moins que chacun d'entre nous, cette semaine, on embarque dans une vie comme ça. Qu'on embarque dans une vie où on s'approche de Dieu. Ce n'est pas un speech juste pour le fun ce matin. Mon but, c'est que tu puisses découvrir la puissance de la prière. C'est que tu puisses quitter ce lieu, puis quand tu vas arriver chez toi à un moment donné cette semaine, tu vas dire, regarde, m'a essayé ça. Puis tu prends un temps avec Jésus. Puis tu le loues, puis tu lui parles, puis tu pleures dans sa présence. Imaginez si toute l'Église, on faisait ça ensemble. S'approcher de Dieu, cœur à cœur avec lui. Imaginez ce que ça produirait comme résultat dans nos vies et dans nos familles et dans notre Église. Amen. Elle épanchait son cœur. Elle dit, c'est le trop plein de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à maintenant. Elle se mit à manger et son visage ne fut plus le même. Une autre clé puissante. Restez attentifs ce matin. Quand tu t'approches de Dieu puis que tu vis un moment cœur à cœur avec lui, avant même qu'il réponde à ta prière, il va venir changer ton cœur. Ça, c'est fort. C'est que tu te sentais triste, déçu, épuisé, à bout de peu importe. Et là, tu t'approches de Dieu, cœur à cœur avec lui, puis ton visage n'est plus le même après. Comme Anne. La Bible nous dit, elle s'est remise à manger, son visage ne fut plus le même. Est-ce qu'elle avait un fils? Est-ce qu'elle était enceinte? Non. Dieu n'a pas répondu à sa prière instantanément. Dieu a touché son cœur. Puis Dieu lui a donné de l'espoir, comme on chantait ce matin. Dieu lui a donné l'espoir. Puis ce matin, avant même que Dieu réponde ou qu'il règle ta situation, il veut changer ton cœur. Il veut te donner de la joie, de la paix. Il veut calmer tes angoisses. Dieu veut calmer tes angoisses. Dieu veut calmer tes craintes. Dieu veut te toucher. Peut-être que tu fais des crises de panique, tu as des moments incontrôlables. Dieu veut venir te calmer par sa présence, par son esprit. D'une façon qui n'est pas humaine, qui est surnaturelle. Dieu veut le faire dans ta vie. Tu as le droit de dire amen, Satan. Dieu veut faire ça dans ta vie, je te le garantis. Il veut donner cet espoir. Il y a un verset dans la Bible qui dit ceci, et là, il y a une photo qui va apparaître tout ça en même temps, et vous allez comprendre pourquoi. Romains 8, 26, ça dit, « De même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. » Ça vous arrive-t-il des fois qu'on ne sait plus trop comment prier, qu'on arrive au bout de nous-mêmes, qu'on manque de jus, on manque de gaz, on ne sait pas trop comment être propulsé plus loin, comment avancer? La Bible nous dit que l'Esprit de Dieu veut t'aider à prier quand on ne sait pas comment, quand c'est rendu trop lourd, trop difficile. L'Esprit de Dieu veut te propulser, t'aider dans la prière. Et ceux qui l'ont vécu, vous savez que c'est spécial. Tu arrives, tu es un peu découragé, tu ne sais pas trop comment, qu'est-ce que tu vas dire. Puis il se passe quelque chose de beau, de puissant. L'Esprit de Dieu te propulse, te donne la force. Et pourquoi cette image? Oui, ça fait longtemps que vous me regardez. Pourquoi tu as mis cette image-là? OK. J'aime beaucoup ces films-là. OK. Je pense que je connais toutes les répliques des trois films par cœur, ou presque. OK. Je les ai trop vus. Et à un moment donné, dans ce film-là, où Marty McFly. Ça, c'est le 3, d'ailleurs, où il est dans un train et il faut qu'il ait à quelle vitesse? 88 miles à l'heure. C'est ça qu'ils disent dans la version traduite. Il faut qu'il aille vite pour que le convecteur temporel s'active et qu'il retourne dans le futur. D'où le titre « Retour dans le futur ». Mais là, c'est un train, puis un train, ça ne va pas à cette vitesse-là. Mais là, le doc, OK, le doc, il a inventé des genres de bûches. Puis c'est de couleurs différentes en plus. Puis là, la bûche, ils mettent ça dans vous avez vu le film? Oui, OK, merci. Là, ils mettent la bûche là, dans l'affaire qu'on met les bûches dedans. Et quand ça atteint une certaine température, ça donne un boost. OK, ça explose. Là, ça se met à aller plus vite. Fait que mon illustration, c'est ça. C'est que quand tu t'approches de Dieu, puis que tu vas pas assez vite, puis que tu manques de propulsion, le Saint-Esprit, lui, est comme la bûche. Puis il vient te propulser, il vient te donner une force, un courage, un amour, une vision pour avancer, pour continuer. J'ai travaillé fort, tu peux applaudir ou dire amen quelque chose, là. Tout le monde sourit, mais ma femme est découragée, mais... C'est correct. Je m'assume entièrement. Un autre verset dans la Bible qui est un verset formidable, qui est un verset simple, mais ô combien profond. 1 Pierre 5-7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Vous avez déjà entendu ce verset-là si vous êtes chrétien depuis longtemps. Est-ce que vous le vivez, ce verset-là? Vraiment. Est-ce que tu te décharges de tes soucis sur Dieu? Ce matin, c'est ce que je t'invite à faire. Décharger sur lui. Te confier en lui. Répandre ton cœur devant lui parce qu'il prend soin de toi. Tu es précieux pour Dieu. Tu es important pour Dieu. Dieu veut répondre à tes prières. Dieu se plaît à répondre aux petites et aux grandes prières. Vous saviez-vous ça? Des fois, Dieu répond à des petites prières. Des fois, Dieu répond à des grandes prières. Et deux illustrations rapidement. Une petite prière auquel Dieu a répondu cette semaine. Moi, j'ai toujours des projets de grandeur dans la vie. Puis, j'ai décidé que j'allais arracher du gazon pour faire des plates-bandes. OK? Fait que là, mais j'avais pas ce qu'il faut pour louer la machine. Fait que là, je t'appelle, puis j'ai même eu un ami qui est venu me donner un coup de main. Mais à un moment donné, là, je me suis rendu compte qu'à cette vitesse-là, ça allait me prendre 2-3 semaines. Et que ça allait être vraiment long. Puis là, j'étais comme ça, j'étais « Oh man, c'est long, arracher du gazon! » Et puis là, j'ai fait une petite prière dans mon cœur, bien spontanée. Je dis « Hey Seigneur, ça serait le fun que j'aie de l'aide ou quelque chose. » Puis dès que j'ai dit ça, ce n'est pas un mensonge, c'est la vérité. Je le déclare solennellement. Dès que j'ai dit ça, il y a une voisine qui a passé dans la rue, qui a jasé avec moi et qui me dit, « Écoute, mon conjoint travaille dans un golf. Il y en a une machine qui arrache le gazon. On appelle ça une détourbeuse. Et il serait d'accord, t'aimerais-tu ça qu'il te la prête pour la fin de semaine? » Fait que là, dans mon cœur, j'ai dit, « Seigneur, t'es donc bien rapide. Aïe, 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 aïe. » Fait que là, j'ai dit, « bien sûr. » Fait qu'hier, un voisin qui est venu chez nous avec sa détourbeuse, ça a pris peut-être une heure, ce que ça m'aurait pris 3 semaines à faire. Fait que Dieu répond aux petites prières, comme ça, il nous connaît. Puis ça m'a juste rappelé que Dieu nous aime, il nous entend, il veut notre bien. Puis des fois, Dieu répond à des grandes prières aussi. Et on parle de Anne ce matin qui répand son cœur devant Dieu et que Dieu va répondre dans un instant dans le texte. Moi, j'ai un souvenir dans ma vie où ma sœur s'était éloignée de Dieu. Elle était loin du Seigneur. Elle avait fait des mauvais choix. Et j'ai le souvenir d'avoir vu ma maman prier pour ma sœur. Et j'ai cette image-là encore dans ma tête. De ma mère qui est assise sur le bord de son lit et qui prie et qui verse des larmes et qui intercède et qui épanche son cœur pour ma sœur, pour sa fille. Pareil comme Anne a fait. Moi aussi, je pensais qu'elle était saoule. Non, c'est pas vrai. C'est une blague. Elle priait, elle pleurait pour que ma sœur revienne à Dieu. Et ça a duré un certain temps, Mais Dieu a répondu à sa prière. Ma sœur est revenue au Seigneur. Applaudis le Seigneur. Il y a une photo de ma mère qui apparaît. Puis, par la suite, il y a une photo de ma sœur qui apparaît avec toute sa famille. Comme vous voyez, ils ont des poules et des chats et des chiens. Mais cette image-là, là, elle n'existe pas s'il n'y a pas une maman qui prie et qui pleure. Êtes-vous là ce matin? Ça n'existe pas, ça. C'est une autre fin. OK? Puis le convecteur temporel puis retour vers le futur, ça ne marche pas, là. C'est une autre fin. Quand on choisit de prier, de répandre notre cœur devant Dieu puis de ne pas lâcher puis de persévérer, savez-vous quoi? Il y a des destinées qui sont changées. Il y a des vies qui sont changées. Il y a des familles qui sont changées. Aujourd'hui, j'espère que je te donne le goût de la prière. J'espère que je te donne le goût de prendre du temps avec Jésus, d'aller dans sa présence et de répandre ton cœur. Puis je termine justement avec des conseils pratiques. Comment intégrer des moments cœur à cœur avec Jésus dans notre vie? Premièrement, éloigner les distractions. Ça va mal prier quand ça fait ding, 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 ding avec notre téléphone. OK? Ferme le son, pitch-le au bout de tes bras. OK? C'est éloigner des êtres humains. Tu as besoin d'être seul à seul avec Jésus. Ça fait du bien. Tu as besoin de ça. Trouver un lieu calme. Certaines mamans vont me dire un lieu calme chez nous. Trouve un lieu calme. Organise-toi. Trouve une façon. S'il faut que ce soit la nuit, mais trouve un lieu calme. OK? Mettre le rendez-vous dans ton agenda. Il faut que ça soit sérieux, la prière. Si ce n'est pas en quelque part dans ton agenda, ça se peut que tu ne le fasses pas. Puis que tu dis « Ah, je prierai demain. » Combien ont déjà dit cette phrase-là? « Je prierai demain. » Aïe, aïe, aïe. Des fois, demain devient une couple de jours, hein? Hein? Qu'on le mette dans l'agenda. Que ce soit précieux pour nous. De surpasser les imprévus. Si ce matin, tu t'engages à la prière, je te garantis qu'il va y avoir des imprévus et une conspiration d'interruption pour t'empêcher de prier. Parce qu'un chrétien qui prie, ça change tout. La prière change tout. Un chrétien qui s'approche de Dieu, ça change tout. Ça change les destinées. Ça change une église. Ça change ton cœur. Donc, si tu t'engages à la prière, il va y avoir des interruptions. Tu vas avoir à faire face à un combat. Ça ne sera pas juste « OK, je vais prier, puis tout zen, puis tout facile, puis aucun problème. Puis... » Non, ça ne sera pas le même. C'est pas le même, la prière. Il y a un combat. Il y a un combat pour aller dans la prière. Surpasser les imprévus. Bloquer un bon moment, je l'ai dit tantôt. C'est correct, 5 minutes, fais-les si tu veux, mais tu as besoin d'un peu plus de temps si tu veux connecter cœur à cœur avec Dieu. Si c'est mon anniversaire de mariage, puis que je veux connecter avec Lison, puis je dis, hey, on prend-tu un petit 5 minutes, un café ensemble? Non, c'est pas à la hauteur. On a besoin de temps pour connecter ensemble. Vous êtes là? Passer à travers le brouillard des pensées. Oh, oh, oh. Quand tu pries, là, ton cerveau, il marche encore, hein? À quoi qu'il pense? À bien des affaires. N'est-ce pas? Qu'est-ce que je vais manger pour souper? Rester des carottes. J'ai-tu signé l'affaire pour mon plus jeune? Ah non, j'ai oublié de le signer. Hey, c'est poubelle demain. Oh, tabarouette. Aïe, aïe, aïe. Hey, on soit, j'ai pas acheté de salade. J'ai-tu de la vinaigrette? Mmh. Hey, à soir, c'est la nouvelle série qui commence. Faut pas que je manque ça. Puis, oh man, à job. Oh, aïe, aïe, je suis arrivé en retard. Je sais pas ce que mon boss va dire. Puis, les pensées, ils font ça quand tu pries. Y'a-tu juste moi qui est bizarre? Ou... Lève ta main si je suis pas bizarre, s'il vous plaît! Merci! Pour connecter avec Dieu, il faut passer à travers le brouillard des pensées. Il faut dire non, je reste focus. Les pensées viennent, OK, c'est correct. On les tasse. On a un pouvoir là-dessus, on les tasse. On reste focus sur Jésus. On reste focus sur sa parole. Une des façons de faire, c'est de lire la Bible. C'est de chanter des louanges. Et on reste focus sur Jésus. Jusqu'à temps qu'on connecte, qu'on passe à travers le brouillard. À un moment donné, quand tu as passé à travers le brouillard, tu es en présence du roi des rois. Et là, c'est formidable. Donc, il faut persévérer, il faut se rendre là. OK? S'engager coûte que coûte. Ce matin, mon appel, ma prière, pendant que les musiciens vont revenir, c'est ça, c'est que je veux que tu t'engages coûte que coûte dans la prière. Je veux que tu t'attaches à Dieu. Je veux que tu dises, moi, je veux retourner dans cette vie où je connecte avec le Seigneur. Et si tu es ici depuis quelques semaines à peine, que tu n'es pas habitué de prier, Écoute, c'est le bon moment de commencer. C'est pas compliqué. Tu fermes tes yeux, tu parles à Dieu. Au début, tu vas peut-être trouver ça un peu spécial. Mais c'est nouveau, c'est spécial. Quand c'est nouveau, c'est toujours spécial au début. Mais tu vas t'habituer, puis tu vas découvrir l'amour de la présence, dans la présence de Dieu, l'amour de Dieu pour toi. Il va se passer quelque chose. Donc, c'est ça mon cœur ce matin. Et je vous lis juste les quelques versets qui concluent ce texte. Elkanah a eu des relations conjugales avec Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte. Elle mit au monde un fils qu'elle appela Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Dieu a répondu à sa prière. Et Dieu veut répondre à ta prière aussi. Dieu t'aime. Dieu veut intervenir dans ta vie. Dieu veut prendre soin de toi, de ta famille, de tes enfants, de tes besoins. Il veut toucher ton cœur, tes émotions. Aujourd'hui, on a vu qu'on vit tous des situations difficiles, mais comment on réagit? C'est quoi notre réaction? Il y a plein de réactions humaines possibles qu'on a nommées. Mais mon message de ce matin, mon encouragement ce matin, c'est que lorsqu'on vit des moments difficiles, qu'on aille dans la présence de Dieu, qu'on s'approche de Dieu par la prière, cœur à cœur, qu'on répande notre cœur devant lui. Puis quand on fait ça, le Seigneur agit, tout simplement. Le Seigneur intervient de façon spéciale. Amen. Est-ce qu'on peut tous se lever ensemble en terminant cette réunion ce matin?